Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 29 novembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, les services de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa seront encore fermés aujourd'hui pour raisons de sécurité.
Au Cameroun, un avocat a été brièvement enlevé à Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest anglophone.
Ici à Washington, des parlementaires américains font pression sur Kigali en faveur de la dissidente Diane Rwigara.
Affaire Jamal Khashoggi, les parlementaires américains ont adressé hier un coup de semonce à l'administration Trump.
Ne manquez pas notre passeport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, pour la quatrième journée consécutive, l'ambassade des États-Unis à Kinshasa a annoncé que ses services seront fermés au public ce jeudi pour raisons de sécurité, et ce, à moins d'un mois des élections du 23 décembre. Les précisions de John Lyndon.
L'ambassade des États-Unis à Kinshasa restera fermée au public aujourd'hui, jeudi 29 novembre, en raison des informations dites crédibles et précises sur une menace terroriste ciblant les installations américaines à Kinshasa. C'est ce qu'on peut lire sur le site internet de la représentation américaine. Les États-Unis encouragent fortement les citoyens américains vivant à Kinshasa et sur toute l'étendue de la RDC à maintenir un niveau accru de vigilance. Lundi, les autorités congolaises ont qualifié de psychose inutile l'alerte donnée dimanche par l'ambassade américaine sur une éventuelle menace terroriste. Elle avait conduit à sa fermeture au public et les alentours de l'ambassade étaient bouclés par les forces de sécurité. Washington a déjà appelé à des élections crédibles en RDC et la campagne a déjà commencé.
Au Cameroun, un avocat a été brièvement enlevé à Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest, l'une des deux régions anglophones. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
L'avocat anglophone Ben Soufou, conseiller juridique du Social Democratic Front, principal parti d'opposition, a été enlevé mardi alors qu'il venait de rentrer chez lui à Bamenda. Denis Kemlemo, chargé de la communication du SDF, a déclaré hier qu'il a finalement été libéré sans préciser si une rançon a été versée. Le SDF a affirmé auparavant que l'avocat a été enlevé par des Zamba Boys, surnom donné aux combattants séparatistes anglophones. En octobre, un maire SDF de la région du Nord-Ouest a été enlevé avant d'être libéré au bout de quelques jours. Toujours le mois dernier, dans la même région, la maison de Ni John Frundi, président du SDF, a été incendiée dans son village et sa sœur kidnappée avant d'être relâchée. Des enlèvements d'élèves ont également eu lieu. Dans les deux régions anglophones, des affrontements entre l'armée et des séparatistes ont lieu presque tous les jours. Selon Human Rights Watch, plus de 200 membres des forces de l'ordre et plus de 500 civils ont perdu la vie. D'après les Nations Unies, environ 437 000 personnes ont été forcées à fuir leur domicile.
Procès du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré a mis en cause les chefs de l'armée qui ont témoigné contre lui. C'était hier à Ouagadougou, au troisième jour de sa comparution devant un tribunal militaire. Des détails avec Eric Maniratidza.
Leur place est à côté d'Onou, dans le box des accusés, a lancé à la cour le général Diendéré. Considéré comme le cerveau du coup d'État, l'ex-chef du régiment de sécurité présidentielle RSP, l'unité d'élite de l'armée derrière le coup, nie farouchement être à l'origine du coup de force raté de 2015, bien qu'il ait pris la tête du Conseil national pour la démocratie, organe dirigeant des putschistes. Tout en ignorant le commanditaire, le général Diendéré a estimé que toute la hiérarchie militaire était impliquée, notamment l'ancien chef d'état-major général, le général Pengré Nomazagré, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le colonel-major Alassane Monet. Le parquet a présenté à l'audience une proclamation du coup d'état retrouvée dans l'ordinateur du général Diendéré, mais qu'il ne reconnaît pas. Au total, 84 accusés sont jugés devant un tribunal militaire à Ouagadougou depuis le début du procès en février. Plusieurs sous-officiels ont cependant désigné lors de leur comparution comme le chef des putschistes. Face à la pression populaire et à l'armée loyaliste, le général Diendéré avait finalement rendu le pouvoir.
Ici à Washington, des parlementaires américains font pression sur le gouvernement du Rwanda contre l'incarcération de la dissidente Diane Rwigara, qui risque jusqu'à 22 ans de prison après avoir été reconnue coupable d'incitation à l'insurrection et de faux et usage de faux. Sa sentence est celle de sa mère Adeline Rwigara, jugée de son côté pour incitation à l'insurrection et incitation à des divisions, doivent être prononcées le 6 décembre. Diane Rwigara avait tenté de se présenter en 2017 contre le président Paul Kagame, mais la commission électorale rwandaise avait invalidé sa candidature, parlant de plusieurs signatures falsifiées dans son dossier.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Très remontés depuis le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, les parlementaires américains ont adressé un coup de semonce à l'administration Trump, une résolution pour cesser tout soutien militaire à Riyad dans la guerre au Yémen, qui mercredi a franchi un premier obstacle au Sénat. Auparavant, le secrétaire d'État Mike Pompeo et le ministre de la Défense James Mattis avaient tenté de les convaincre de rester aux côtés de l'Arabie saoudite en disant en substance qu'il n'y a pas de preuves irréfutables liant le prince héritier à l'ordre de tuer Jamal Khashoggi. De nombreux parlementaires ont fait part de leur écœurement après cet assassinat et de leur frustration face à la réponse du président Donald Trump.
Le président de l'Ukraine, Petro Porochenko, a demandé aux pays membres de l'OTAN et notamment à l'Allemagne de déployer des navires en mer d'Azov pour soutenir Kiev dans son bras de fer avec Moscou. Pour rappel, dimanche, les Russes ont arraisonné 3 navires ukrainiens en mer Noire, non loin de la Crimée annexée par Moscou en 2014, tirant sur eux et blessant 3 marins.
En Afghanistan, un attentat à la voiture piégée suivi d'un échange de tirs, revendiqué par les talibans, a fait 10 morts et 19 blessés. L'attaque visait une compagnie de sécurité privée britannique installée dans l'est de Kaboul. Précision d'Irénée Herman Umbo.
Un porte-parole du ministère Nasrat Rahimi n'a pas communiqué sur la nationalité des victimes, avertissant que le bilan pourrait encore s'aggraver. Selon la police, une voiture piégée a explosé à proximité des locaux de la compagnie G4S. Juste après, il y a eu échange de tirs. G4S a confirmé depuis Londres un incident contre une de ses installations à Kaboul. La compagnie emploie 611 000 personnes dans une centaine de pays. L'attentat a été revendiqué par les talibans dans un message sur Twitter par leur porte-parole Zabouila Moudjahid. L'opération a commencé par l'enlèvement de tous les obstacles par un camion piégé et l'ouverture du chemin à de nombreux martyrs. Cette attaque survient le jour où le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les talibans et le gouvernement afghan à entamer des pourparlers de paix directe. Lors d'une réunion sur l'Afghanistan à Genève, le président afghan a annoncé la constitution d'une équipe de négociation de 12 personnes. Il a aussi indiqué qu'une feuille de route pour les négociations de paix a déjà été établie.
Le président américain Donald Trump est attendu aujourd'hui en soirée à Buenos Aires, en Argentine, où il doit prendre au sommet du G20. Plus de 20 000 membres des forces de l'ordre sont déployés en prévision des manifestations anti-G20 qui sont prévues là-bas. Le président américain suivra de peu à Buenos Aires son homologue chinois Xi Jinping, avec lequel il a prévu de s'entretenir pour tenter d'enrayer l'escalade des représailles douanières entre les deux pays et qui menace la croissance mondiale. L'incertitude demeure, en revanche, sur une rencontre bilatérale entre M. Trump et Vladimir Poutine, le président russe, dont l'arrivée est prévue vendredi.
Le nombre de sans-papiers aux États-Unis est tombé de 12,2 millions en 2007 à 10,7 millions, au plus bas depuis l'année 2004, selon une étude de l'Institut de recherche Pew, basée sur des statistiques gouvernementales américaines de 2016. Cette baisse est attribuée à une chute du nombre de Mexicains entrant aux États-Unis. La population clandestine venue d'Amérique centrale a pourtant augmenté de 375 000 entre 2007 et 2016. Le président Donald Trump a fait de l'immigration un thème majeur de sa campagne avant l'élection de 2016 et avant les élections de mi-mandat du 6 novembre dernier, le président Trump avait martelé le même message d'extrême fermeté sur l'immigration. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Dès janvier 2019, le Bénin et le Togo assureront chacun l'importation directe de leurs besoins complémentaires en énergie. Actuellement, seule la communauté électrique du Bénin, CEB, une structure commune aux deux pays, en charge de la production et du transport de l'énergie électrique, a des privilèges d'acheteur unique. Or, l'an prochain, la CEB deviendra la gestionnaire du réseau de transport d'énergie, avec pour activité connexe la poursuite de l'exploitation des moyens de production du barrage de Nombeto et des deux turbines à gaz installées dans les deux pays. La Guinée équatoriale compte investir 2,4 milliards de dollars dans les hydrocarbures d'ici 2019 pour développer environ 11 nouveaux puits ainsi que les entreprises censées intervenir dans le processus, révèle l'agence Bloomberg. C'est une bouffée d'oxygène pour l'économie guinéenne car les investissements directs étrangers dans toutes les industries du pays s'élevait seulement à 304 millions de dollars en 2017. Le gouvernement cherche à remédier à la chute libre de la production tombée de 300 000 barils par jour à environ 120 000 barils par jour le mois dernier. Terminons avec le Mali où Resolute Mining s'allie avec Init Energy Project pour développer conjointement une centrale hybride solaire indépendante de 40 MW à sa mine d'or Siama, selon l'agence Ecofin. La centrale, qui sera opérationnelle d'ici 2020, combinera les technologies du mazout lourd, de la batterie et du solaire. Elle remplacera la centrale actuelle de 28 MW alimentée au diesel et utilisée sur la mine.
À présent, les sports avec Yacouba Pedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite et fin hier du tour préliminaire en Ligue africaine des champions.
Pas de grosse surprise à signaler pour les têtes d'affiche. La SEC Mimosa a gagné 1-0 contre Mangasport. Même score pour Oroya face à Barak Nyang contre l'Urs. Primero de Agosto, demi-finaliste de la précédente édition, a pris le meilleur sur l'AS Otoho 4-2. Le champion d'Afrique 2016, Mamelodi Sundowns, s'est imposé 2-0 en Guinée équatoriale contre Leones Vegetarianos. L'autre club sud-africain Orlando Pirates a cartonné 5-0 face à Light Start, tandis que le club africain a concédé un résultat piège au Rwanda face à l'APR 0-0.
Génération Foot et Djoliba se sont neutralisés dans le choc d'hier en Coupe CAF.
Oui, 0-0 entre les Maliens du Djoliba et les Sénégalais. Par contre, plusieurs cartons sont à signaler, à commencer par les Libyens d'Al Ittihad, bourreau 8-0 des Comoriens de Miracle ou encore des Sud-Africains de Kaizer Chiefs qui ont cartonné 4-0 devant Zimamoto de Zanzibar. Grosse option prise aussi par les Congolais du 10 Motema Pembe qui ont étrié les Centrafricains des Anges de Fatima sur le score de 4-1.
Europa League ce soir.
Plusieurs clubs peuvent rejoindre Leverkusen, Zurich, Salzbourg, le Dynamo Zagreb, Arsenal, Francfort, la Lazio et Chelsea parmi les équipes déjà qualifiées. C'est le cas du FC Séville qui n'a besoin que d'un nul sur la pelouse du Standard Liège. Les portes des 16e s'ouvriront aussi pour le Sporting et Fenerbahçe, sauf en cas de défaite respectivement contre Karabakh et le Dynamo Zagreb. Arsenal se déplace en Ukraine pour affronter le FC Forskla avec la qualification déjà en poche. Les Espagnols du Betis Séville reçoivent les Grecs de l'Olympiakos. Villarreal se déplace à Glasgow pour affronter les Rangers. Le Celtic, autre club de Glasgow, ira chercher un maximum de points à Rosenborg qui n'en a aucun.
Mise à l'amende, Ayatou contre-attaque.
La Cour économique du Caire a condamné l'ancien président de la CAF et son ex-secrétaire général, le Marocain Hicham El Amrani, à environ 24,5 millions d'euros chacun pour abus de position dominante dans l'affaire du contrat avec Lagardère Sport. Issa Ayatou a riposté, je cite, « L'affaire est orchestrée avec un agenda politique et pour le bénéfice de certains individus », a déclaré le Camerounais, regrettant que le tribunal l'ait sanctionné à titre individuel tout en dédouanant la CAF de toute responsabilité. D'après Ayatou, les règles de la concurrence ont été respectées avant l'attribution à Lagardère Sport du contrat portant sur les droits médias et marketing du football africain pour la période 2017-2028. Basketball pour finir, avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Charlotte et Atlanta 108-94, Philadelphia et New York 117-91, Utah et Brooklyn 101-91, Dallas et Houston 128-108, Milwaukee et Chicago 116-113, Minnesota et San Antonio 128-89, La Nouvelle-Orléans et Washington 125-104, Oklahoma City et Cleveland 100-83.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La diaspora mauritanienne des États-Unis s'était donné rendez-vous hier devant le siège des Nations Unies à New York pour réclamer justice pour 28 soldats et officiers noirs de l'armée mauritanienne tués il y a 28 ans. Ils disent avoir envoyé une lettre au secrétaire général Antonio Guterres pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les violations des droits de l'homme en Mauritanie. Abdourahmane Dia a joint l'un des organisateurs de la manifestation, Bakary Tandia.
La raison pour laquelle nous manifestons aujourd'hui, c'est pour honorer la mémoire des 28 soldats mauritaniens tués le 28 novembre 1990 pour célébrer la fête de l'indépendance nationale qui est devenue désormais une journée de deuil pour nous.
Est-ce que vous avez l'impression que la communauté internationale s'intéresse à cette question particulière concernant les 28 mauritaniens négro-africains qui étaient dans l'armée mauritanienne?
Nous savons qu'avec le système international, ça prend du temps en Amérique latine. Nous avons vu par exemple en Argentine, dans bon nombre de pays, avec la persistance, ils ont fini par obtenir la vérité et la justice. Donc c'est notre devoir de lutter et nous sommes convaincus que nous allons avoir ce que nous cherchons dans cette lutte-là, qui est la justice pour les victimes.
Qu'est-ce qui s'était passé le 28 novembre 1990? Est-ce que cette affaire a été élucidée?
Absolument, ça a été documenté par les organisations de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch. Nous avons une liste collectée par Amnesty International ainsi que les organisations de défense au niveau national.
Et qu'est-ce que le gouvernement mauritanien fait concernant ce dossier aujourd'hui?
Le gouvernement mauritanien ne fait absolument rien parce que la plupart des gens qui gouvernent ce pays sont impliqués dans ces crimes. Et ce qui est grave, en 1993, l'Assemblée nationale a adopté une loi d'amnistie orchestrée par le gouvernement pour protéger ses victimes en quelque sorte. C'était une sorte d'auto-amnistie.
Quelle est la prochaine étape pour vous?
Nous sommes engagés dans cette lutte jusqu'à la victoire finale. Nous avons une lettre que nous adressons au secrétaire général des Nations Unies pour attirer son attention sur ces faits. Et d'ailleurs, cette année, lors du sommet de l'Union africaine à Nouakchott, nous avons adressé une lettre aux chefs d'État et aux chefs de gouvernement qui ont participé à ce sommet pour les informer et les alerter sur les graves violations des droits de l'homme et les conséquences qui pourraient en découler.
C'était Bakary Tandia, militant des droits de l'homme, joint à New York.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La région du Tibesti, dans le nord du Tchad, est depuis quelque temps le théâtre d'affrontements entre l'armée et une milice locale d'autodéfense près des mines aurifères de Miski. Le nouveau ministre tchadien de la Défense, le général Daoud Yahia, s'y est rendu récemment. Opérant à proximité de cette région, les rebelles tchadiens du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, basé dans le sud de la Libye, réagissent à la situation à Miski. Idriss Fall a joint un de leurs porte-parole, Mahamat Ali.
Le régime de Déby va mal depuis la règne de MPF. On sait qu'au Miski, ce qui se passe, c'est une guerre civile. Idriss Déby et ses ministres sont en train de violer le droit international. Ce droit, c'est quoi? C'est le concept de responsabilité pour le protéger, pour les civils. Ça, c'est une convention. En 2011, la guerre en Libye, c'est ça. Donc, le régime de Gaddafi et les autres régimes sont en train de tuer les civils. Maintenant, la communauté internationale a fermé les yeux contre ces massacres des civils, des enfants sont morts. Idriss Déby est aussi en train de violer violer les lois internationales en minant toutes les alentours de Miski. Il y a une convention, les mines antipersonnelles par le Conseil de sécurité. Idriss Déby est en train de violer cette convention. Il faut que les communautés internationales s'élèvent pour dire non à Déby, comme en Libye et en Kosovo en 1999. Quel est le rôle du Conseil de sécurité?
Les journalistes n'ont pas accès aux zones de combat. On sait qu'il y a eu des bombardements de l'aviation et des hélicoptères. Est-ce qu'on peut parler de bilan de ces affrontements?
Donc, il n'y a pas d'affrontements. Idriss Déby est en train de mener une guerre contre la population de Miski et de Tibesti en général. Il n'y a pas de combat. C'est les civils qui ont constitué un comité de défense. C'est ce comité qui est en train de défendre leur terre parce qu'Idriss Déby veut exploiter et finir avec cette population. Sinon, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de militaires dans ces zones. Ce sont des civils.
Tout ça, c'est autour de mines d'or, nous dit-on, les mines d'or de Miski et toutes ces zones aurifères.
Idriss Déby veut exploiter cette zone qui a des ressources importantes. Il veut exploiter cette zone. Depuis, on a eu le pétrole. Idriss a exploité, a géré cette pièce, toute cette ressource du pays. L'argent volé sont cachés dans les paradis fiscaux. Donc, où sont partis ces argent? Aujourd'hui, la population de Tchad meurt. Il y a des gens qui n'ont pas de soins de santé, des produits de première nécessité. Donc, Idriss, on le connaît. J'ai fait un appel ici. Il faut que les communautés internationales s'élèvent pour dire non à Déby. Il n'y a pas une guerre. Il est en train de faire la guerre avec les civils, avec la population civile. Il n'y a pas de militaires sur place.
Quelles sont les relations entre votre comité et le comité d'autodéfense de Miski?
Nous, on défend la population de Tchad en général et on défend la population de Miski souffre. Donc, nous, on ne va pas laisser comme ça attendre. Nous, en tant qu'une rébellion, nous luttons pour le changement pacifique au Tchad. Donc, il faut qu'on intervienne. On ne peut pas laisser comme ça mourir notre population. Donc, nous, on ne peut pas laisser Idriss Déby faire n'importe quoi. Donc, nous, on est là. On a fait les déroutes d'Idriss Déby. On a écrasé à Kouribougri. Il a abandonné tous ses armements. Il faut qu'Idriss s'arrête de bombarder les civils.
Mahamat Ali, porte-parole des rebelles tchadiens du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, basé dans le sud de la Libye.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM, au Tchad.
Anne Rajoul et Marc Ravalomanan sont définitivement confirmés pour le second tour de la présidentielle à Madagascar en décembre. Pour notre confrère malgache Randy Doni, joint à Antananarivo par Nanit Talani, ce nouveau round entre ces deux anciens présidents montre que le problème de leur rivalité reste entier 10 ans après.
Ceci signifie clairement que le duel, le combat de 2009 n'a jamais été résolu. On l'a simplement caché lors de l'élection de 2013 sous la forme du Nini, c'est-à-dire ni Ravalman ni Rajoel, formule qui a été imposée par la communauté internationale à l'époque. Donc Rajoel a cherché à présenter un candidat de substitution qui s'appelle Erajon Armafian. Ravalman avait également le sien, Jean-Louis Robinson. Finalement, 10 ans après, pratiquement, le problème n'est pas encore résolu entre les deux. Madagascar a perdu pratiquement 10 ans. C'est pour ça que les deux, ils sont toujours en tête. Le problème entre Ravalman et Rajoel n'est pas résolu et c'est pour ça qu'ils sont toujours là.
Dans ce cas, ne craignez-vous pas une campagne émaillée de troubles avec de vieilles rancœurs qui risquent de renaître?
C'est une possibilité, c'est un risque, mais je prends le risque moitié-moitié, 50% qu'il y a un trouble, 50% il n'y en a pas. On joue un peu au loto, mais de toute façon, on n'y peut rien. Si on prend la décision de repousser le deuxième tour, ben on va aussi repousser encore l'échéance du duel. On a déjà perdu, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, 10 ans de notre vie, 10 ans de développement. Dans ce cas, il vaut mieux mettre les deux rivaux sur le ring, qu'ils s'expliquent une bonne fois pour toutes.
Est-ce que vous pensez que le scrutin du 19 décembre se déroulera dans le calme?
Il y avait beaucoup de troubles lors du premier tour et je crois que ça s'est un peu apaisé. En tant que citoyen, j'espère que ce sera le 50% pacifique, mais j'estime aussi quand même que la population a déjà tiré des leçons du passé. Il y avait plein de morts et maintenant, ces morts-là, ces victimes, pour les rendre hommage par respect, on va dire, ces martyrs de la politique, le sien quand même a tiré des leçons et je ne suis pas sûr qu'il y a encore plein de gens qui soient prêts à se sacrifier pour une cause politique peut-être, mais pas pour des personnalités politiques qui c'est la population qui subit les violences, mais pas les dirigeants, pas les politiciens.
La Haute Cour constitutionnelle a rejeté les requêtes faisant état de fraude. Est-ce que cette décision de la Cour a été une surprise?
Non, pas, enfin, personnellement, et je crois que beaucoup de gens sont de même avis. Ce n'est pas une surprise parce que, bon, c'est vrai, il y avait beaucoup d'irrégularités, il y avait beaucoup de maladresses de la part des organisateurs, la CENI et tout, mais ce ne sont pas des maladresses à même de changer les résultats du vote. Il y avait des irrégularités, bon, on peut appeler ça des fraudes, etc., etc., mais dans leur proportion, ce ne sont pas des événements qui sont à même de changer le cours du scrutin, le résultat du vote.
Notre confrère malgache, Randy Doni, joint à Antananarivo.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Nigeria, troisième semaine de grève des enseignants dans les universités du pays. Notre correspondant Gilbert Tamba s'est rendu à l'université d'Abuja pour constater les effets de cette grève.
Les activités académiques sont à l'arrêt ici à l'université d'Abuja comme dans les autres à travers le pays. Et c'est là depuis que la Coordination nationale des enseignants d'université du Nigeria a lancé son mot d'ordre de grève le 5 novembre. La grève est très suivie. Ici, pas de cours. Le personnel d'enseignants est absent et les classes sont vides. Godwin Ekimar est étudiant en troisième année de sociologie.
Cette grève affecte nos programmes académiques et nos examens. Vous savez aussi que lorsque vous restez longtemps à l'école, cela augmente votre âge. Donc parfois, si le gouvernement parle de limite d'âge, il a une part de responsabilité.
L'université d'Abuja compte plus de 60 000 étudiants et est perçue comme l'une des meilleures institutions d'enseignement supérieur au Nigeria. Depuis des années, la grève a désorganisé le système d'enseignement supérieur du pays. Le calendrier académique est très irrégulier du fait de grèves successives. Wina Moro est en cinquième année de médecine.
J'accuse d'abord le gouvernement qui ne respecte pas les accords qu'il a signés avec Assou. Il donne son accord et après, il revient sur sa décision pour dire non. Ensuite, j'accuse le syndicat des enseignants qui va en grève juste pour certains bénéfices.
Le pays compte 90 universités publiques, dont 43 universités fédérales et 47 universités d'État. Les enseignants dénoncent, entre autres, le manque d'investissement dans l'enseignement supérieur au Nigeria, qui impacte négativement la qualité d'enseignement. En plus, de nombreux projets sont inachevés. C'est le cas de la faculté d'agronomie en construction sur ce campus depuis quelques années. Cette grève, lancée le 5 novembre par Assou, l'intersyndicale des enseignants d'université, est la dernière d'une série d'actions menées par le syndicat ces dernières années. Le professeur Biodun Ogunyemi est son président.
Nous sommes en grève parce que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Depuis 2009, nous avons signé un accord avec le gouvernement pour voir comment on pouvait repositionner les universités publiques nigérianes en vue d'une reconnaissance internationale. Nous avons discuté de la possibilité d'obtenir des fonds nécessaires pour nos besoins.
Contrairement à la NLC, la puissante centrale syndicale des travailleurs du Nigeria, qui a suspendu son mot d'ordre de grève après un accord avec l'État il y a deux semaines, les enseignants d'université et sont toujours à la table de négociation avec le gouvernement fédéral. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Morgane Guiriec en votre compagnie. Et cette semaine, dans Washington Forum, gros plan sur les violences contre les femmes. Et la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes, c'était le 25 novembre, l'occasion de dresser un état des lieux. Plus de la moitié des femmes assassinées dans le monde en 2017 ont été tuées par leurs compagnons ou des membres de leur famille. Le domicile est donc l'endroit le plus dangereux pour une femme. Et d'après l'ONU, c'est en Afrique que les taux sont les plus élevés. Comment expliquer l'ampleur des violences conjugale sur le continent? La justice protège-t-elle suffisamment les victimes? Comment impliquer les hommes dans les solutions? On en discute ce jeudi à 19h30, temps universel. VOA Afrique, votre santé, votre avenir.
Un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé? Vous voulez prévenir vos maladies? Les soigner à temps?
Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays?
Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique avec Rosine Mounezero
et Mohamedou Oumpa, samedi à 8h30, temps universel.
Votre santé, c'est votre avenir.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sudoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.